Bonsoir. Le cessez-le-feu entre les parties en conflit dans l'est de la RDC qui a pris effet dimanche 4 août à minuit n'est pas respecté sur le terrain. Cet accord obtenu le 30 juillet sous la facilitation de l'Angola engage la RDC et le Rwanda dans un processus de rétablissement de la paix dans la région. Cependant, les hostilités se poursuivent malgré ces mesures dans la région des Biza. Par exemple, les combats continuent. Les rebelles du M23 qui occupent de nombreux villages des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero poursuivent leurs attaques et avancées vers des nouvelles zones. Dans un communiqué daté du 1er août, la FCM23 a rejeté ses cessez-le-feu. Selon son porte-parole, les conclusions de la dernière réunion de Luanda, à laquelle ils n'ont pas été conviés, ne les engagent pas automatiquement. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 5 août 2024. Participe au débat Jean-Michel Kalungi, membre de l'Union sacrée de la nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. Jean-Michel Kalungi, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs.
Voilà, merci. Aussi avec nous dans ce débat, Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, député national honoraire et notable de Goma au Nord Kivu, ancien membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est également secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Jean-Baptiste Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Notre analyste de ce soir, il s'appelle Onesport Sematumba. Il est analyste en charge des Grands Lacs à International Crisis Group. Onesport Sematumba, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir chers auditeurs.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Je n'oublie pas le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Hein.
Continuez à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
C'est dimanche 4 août à minuit que le cessez-le-feu a pris effet dans l'est de la RDC après une trêve humanitaire de 15 jours. Cet accord signé le 30 juillet sous la facilitation de l'Angola engage la RDC et le Rwanda dans un processus de rétablissement de la paix dans la région. Sur les terrains, en revanche, ces mesures sont visiblement pas suivies et respectées par les parties au conflit. Denise Loukesso pour le reportage.
À l'expiration de la trêve humanitaire vendredi 3 août dernier à minuit, le cessez-le-feu a pris effet immédiatement le lendemain. Sur le terrain, notamment dans la région de Binza, les armes ne se sont pas tues. Les rebelles du M23 qui occupent déjà la quasi-totalité du territoire de Rutshuru et une partie des Masisi, Nyiragongo et Lubero poursuivent des attaques et des avancées vers de nouvelles entités. De nombreux acteurs politiques en province saluent ce cessez-le-feu et exigent en même temps la création des zones tampons sous la surveillance de la MONUSCO. Eze Kanendo, député provincial honoraire, revient ici sur cette demande.
Notre souhait est que ceci soit respecté par tous. L'occasion pour nous de réitérer la création d'une zone tambo à Kirumba, Kaina et Kanyabayonga par les mécanismes ad hoc qui doit travailler de concert avec la MONUSCO. Ceci servira comme couloir humanitaire et permettre de vérifier le respect du cessez-le-feu. Nous demandons la réouverture de la route Goma-Rutshuru-Kanyabayonga.
Dans un communiqué daté le 1er août dernier, l'AFC M23 a rejeté ce cessez-le-feu. À en croire son porte-parole, les conclusions de la dernière réunion de Luanda, à laquelle ils n'ont pas été conviés, ne les engagent pas automatiquement. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Merci Denise Loukesso pour ce reportage. Jean-Michel Kalungi, je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée de la nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. le cessez-le-feu entre les parties en conflit dans l'est de la RDC, qui a pris effet dimanche 4 août à minuit, n'est pas respecté sur les terrains. Pourtant, on pensait qu'avec cet accord, les choses s'arrangeraient, la situation pourrait s'améliorer, mais malheureusement, les combats se poursuivent sur le terrain, comme je viens de le dire. D'abord, votre avis sur cet accord signé entre la RDC et le Rwanda sur la facilitation de l'Angola.
Je voudrais dire d'emblée que nous avons donné notre support à cet accord. Pourquoi ? Parce que depuis le mois passé, il a été bien documenté et chiffré par le système des Nations Unies qu'il y a plus de 4000 militaires rwandais qui accompagnent le M23 et que la force militaire ou la force de feu que possède le M23 n'est pas liée aux rebelles congolais, mais plutôt aux militaires rwandais. Donc, depuis que cette guerre a commencé, le président Félix-Antoine Tshisekedi a toujours précisé qu'il ne négocierait jamais avec le M23 parce que ce n'est pas un plan du M23, mais c'est un plan du voisin. Voilà pourquoi il était pour nous nécessaire, et nous avons jugé cela fructueux, de pouvoir continuer les négociations sous ces formats avec l'Angola. Et aux fins de ces négociations, nous sommes arrivés à ces cessez-le-feu qui devait venir après l'accord négocié par les Américains qui avait amené une trêve d'une quinzaine de jours. Mais malheureusement, il faudrait constater qu'il y a les rebelles, entre autres, sous le leadership de M. Nanga, qui vraiment va dans la controverse totale pour un ancien président de la commission électorale du Congo, s'est retrouvé rebelle quelques années après. C'est vraiment dommage. Mais il a aussi son agenda, et les personnes qui l'ont rejoint, qui l'accompagnent, ont le leur. Et dans cet agenda, pour eux, le cessez-le-feu, sans avoir négocié ou eu gain de cause des exigences qui sont les leurs, ne le conforte pas. Voilà pourquoi il faudrait voir les deux protagonistes. Mais pour nous, c'est d'abord de trouver le moyen à faire sortir de notre territoire les militaires rwandais. Et après, nous allons régler le problème avec les rebelles. Et il ne faudrait pas oublier que depuis quelques jours, il y a un procès qui a été ouvert ici contre ces rebelles. Il y a de l'autre côté la force militaire que nous allons engager, mais nous voudrions que pour l'instant, que les pays voisins qui sont l'appui militaire, logistique et technique des rebelles et qui sont en train d'être manipulés selon les enjeux de la sous-région puissent quitter le territoire congolais. Et en ce moment, nous pouvons régler le problème avec les rebelles.
Alors, malgré la signature de cet accord à Luanda, en Angola, je l'ai dit, sur le terrain, les combats continuent. Le M23 continue d'avancer et a récupéré même plusieurs localités dans certains territoires de la RDC. Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda n'a pas joué franc jeu ? Parce que vous avez signé, la RDC a signé avec le Rwanda, le M23 se dit ne pas être concerné par cet accord signé avec le Rwanda. Le Rwanda ne représente pas ce mouvement. Pourquoi accepter de signer avec le Rwanda alors que sur les terrains, c'est le M23
C'est ce que je vous dis. Je vous ai dit que depuis 1997, le Rwanda est sur notre territoire. Aujourd'hui, les statistiques d'exportation des matières premières à travers le monde démontrent que le Rwanda est premier producteur de coltan, est premier producteur de l'or, et exporte autant de minéraux qu'ils n'ont pas dans leur sous-sol. Donc, la guerre au Congo n'est pas seulement une guerre congolaise, mais c'est une guerre économique. Le Rwanda profite de cette guerre. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes dit, il est
préférable de discuter avec le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, il y a les Nations Unies qui ont documenté et qui ont prouvé qu'il y a plus de 4000 militaires rwandais sur les territoires. Nous préférons d'abord régler le problème de pays à pays, que ces militaires sortent. Nous avons montré notre capacité de respecter les accords parce que le Rwanda et tous les autres pays ont toujours crié que la RDC ne respecte pas ces accords. Voilà maintenant que nous prouvons, nous avons respecté les accords signés et sur le terrain, la guerre reprend et ils profitent de cet accord pour reprendre du terrain. Nous allons démontrer dans le même mécanisme que l'interface n'a pas respecté les engagements coulés dans cet accord et maintenant il est à nous de défendre les territoires et de les mettre dehors. Mais nous utilisons la diplomatie, nous utilisons la justice et nous utilisons la guerre sur le terrain. Et nous savons que en mettant ces trois actions et avec une bonne stratégie, nous allons terminer cette guerre bientôt.
Alors, lorsque vous parlez de faire partir du territoire congolais des militaires rwandais, de quels militaires s'agit-il ? Ceux qui sont en appui au M23 ou bien vous parlez des FDLR ?
Nous parlons de ceux qui sont en appui au M23, qui ont été documentés par le système des Nations Unies. Les FDLR, je voudrais dire que c'est un gros mensonge. Pourquoi ? Le président honoraire, Joseph Kabila, a ouvert les frontières pour permettre à l'armée rwandaise d'entrer sur les territoires. Eux qui documentaient et savaient où se trouvaient les FDLR. Ils ne les ont jamais chassés. Ils sont ressortis du territoire. Le président Tshisekedi l'a fait. Donc le Rwanda ne peut plus utiliser cette excuse.
Mais pour pourquoi dire... vous avez accepté de signer cet accord lorsque on lit l'accord signé à Luanda entre la RDC le Rwanda, la RDC est d'accord de neutraliser ce groupe qui se trouve sur le territoire congolais, un groupe qui supposait ne pas exister, mais vous avez accepté.
Ils ont amené une documentation pour dire que les FDLR sont localisés à tel endroit. De tous ces temps, ils disent que, ils prétendent que l'armée congolaise travaille avec les FDLR. Donc, comme c'est des éléments qu'ils ont mis à table, et ils les ont documentés, nous disons d'accord, nous prenons ces éléments, et nous allons travailler pour neutraliser ces groupes que vous pensez être des FDLR. Nous sommes d'accord d'aller dans ce processus, de les neutraliser s'ils existent, parce que le Rwanda le documente. De la même façon que nous, la RDC, nous avons documenté et nous sommes appuyés par le système des Nations Unies qui démontre qu'il y a l'armée rwandaise sur notre territoire. Il ne faut pas oublier que le M23 est parti de quoi ? C'est du brassage. Et un matin, ceux qui se sont reconnus colonel de l'armée congolaise, membre de l'armée, se sont révoltés pour dire qu'ils ne sont pas bien traités, eux qui se donnent une autre connotation. Et demain, nous voulons arrêter tout ça. Vous dites qu'il y a FDLR documenté, prouvé, et nous allons mettre les Nations Unies, l'Angola et tous les autres partenaires dans cette guerre à contribution pour neutraliser ces FDLR. De la même façon que nous avons accepté de neutraliser, de la même façon que nous demandons au Rwanda de pouvoir sortir du territoire congolais, de retirer ces militaires qui sont sur notre territoire et qui appuient un groupe rebelle. Le M23 avec Corneille Nanga, ce n'est pas un groupe de revendication, ce sont des rebelles qui ne sont là que pour des intérêts économiques et pour faire couler le sang du Congolais.
Merci, monsieur Kalonji. Jean-Baptiste Mundo Kasekwa, député national honoraire, notable de Goma au Nord, Kivu. Vous êtes ancien membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Également secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamouka. Comment vous analysez cette situation? D'un côté, vous avez les cessez-le-feu entre les partis en conflit dans l'est de la RDC qui a pris effet dimanche 4 août à minuit. Malheureusement, sur terrain, cette mesure n'est pas respectée.
Elle n'est pas respectée. Aujourd'hui, les RDF M23 viennent de prendre le contrôle de la localité de Nyakakoma. C'est au bord du lac. Alors qu'ils avaient déjà, au mois de mars, occupé Vichumbi, c'est-à-dire que les deux cités au bord du lac Idi Amin sont sous leur contrôle, ce qui veut dire que tout le lac, c'est un boulevard qui mène directement vers Kasindi. Entre-temps, non seulement ils ont le contrôle de ces positions sur le lac, mais ils ont également le contrôle de toutes les hautes montagnes à l'est du lac, c'est-à-dire Kamandi, Kikubo, Kassé, et vers Routoué. Sachant aussi que, et c'est ici personnellement que je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes. En fait, avant d'arriver à Nyakakoma aujourd'hui, hier dimanche, ils ont fait la fête, à part la prise du poste frontalier de Ishasha. Le même dimanche hier, ils ont pris Nyamilima, ils ont pris Kisharu, ils ont pris Kiseguru, et ils ont donc pris le dernier groupement du territoire de Rutshuru qui échappait encore au contrôle de l'occupation rwandaise. Mais ce qui est révoltant, Kelly, c'est que cette zone avait déjà été abandonnée par les FARDC depuis novembre 2022. Depuis novembre 2022. Autrement dit, lorsque les M23 RDF ont pris le contrôle de Rutshuru, de Kiwanja, de Mabenga, jusque de Tongo, les FARDC se sont retirés. Et aujourd'hui, le Rwanda vient occuper une zone qui était déjà abandonnée. Il n'y avait que des résistants, Maïmaï, et le gouvernement, au lieu de faire retourner les FARDC, il avait envoyé quelques éléments de police. On a vu que ces policiers-là ont plié bagages hier au poste de Chacha, sont partis vers l'Ouganda. Bref, le gouvernement avait déjà délibérément abandonné ces territoires-là. C'est là que personnellement, par cette série ininterrompue de cessez-le-feu, j'y vois plutôt une complicité du pouvoir dans la cession d'une partie du territoire. Et cela est révoltant pour moi qui suis fils de ces déplacés-là.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le pouvoir gagnerait quoi en faisant cela?
Mais qu'est-ce que le pouvoir devait gagner lorsque, en novembre 2021, il a été signé une convention pour le déploiement d'un bataillon de la police rwandaise à Goma? Et n'eût été la protestation vigoureuse des populations de Goma, eh bien, le pouvoir n'avait pris aucune disposition pour nous expliquer qu'est-ce qu'il gagnerait. J'en viens, Kelly. Bunagana tombe entre les mains de l'armée rwandaise M23 le 13 juin 2022. 23 jours après, soit le 6 juillet 2022, le gouvernement de la RDC se retrouve à Luanda avec Paul Kagame pour signer le premier cessez-le-feu. Vous êtes agressé. Votre territoire est occupé. Et trois semaines après, vous signez cessez-le-feu. Comme si ça ne suffisait pas. Fin novembre, l'armée rwandaise et ougandaise bloquent la route Goma-Butembo, Anokipa, Rubare, Kiwanja, Rutshuru, Mabenga, toutes ces entités-là. Paradoxe, le 23 novembre 2022, le gouvernement renouvelle le cessez-le-feu à Luanda. Les Rwandais s'en foutent de ce cessez-le-feu-là. Le 26 janvier 2023, les troupes, les unités spéciales rwandaises occupent Kichanga, vont jusqu'à Kiloliwe et à Mushaki. Paradoxe, notre réaction, nous allons à nouveau renouveler notre fidélité au cessez-le-feu. Les troupes rwandaises prennent Nyanzale, Kibirizi, Ruindi, Vichumbi. Nous allons à Luanda le 21 mars 2024. Nous signons cessez-le-feu et nous prenons l'engagement de présenter un plan de neutralisation des FDLR. Alors que les FDLR rapatriés par la MONUSCO, j'insulte Goma, j'insulte Nord Kivu, je connais des éléments qui sont aujourd'hui dans le M23, qui étaient des FDLR qui étaient dans le Massissi. Ces zones où l'on prétend que l'on peut retrouver des FDLR sont sous le contrôle de l'armée rwandaise aujourd'hui. C'est Rutshuru, ce sont les montagnes de Nyiragongo, c'est une partie de Massissi. Et le gouvernement s'engage, j'ai lu ce fameux communiqué de trahison, où il dit qu'ils ont présenté le 26 avril de cette année un plan de neutralisation de ces FDLR-là, que le 6 mai de cette année, le Rwanda a fait ses observations, autrement dit, le Rwanda n'a pas été satisfait, que le médiateur angolais a présenté un plan harmonisé autour duquel les experts du renseignement de trois pays vont se réunir d'ici le 7 août, mais c'est vraiment une diversion. Entre-temps, disais-je, donc, les unités spéciales rwandaises, mon collègue, le co-débatteur a bien dit, il est établi, et les experts des Nations Unies ont documenté qu'il y a 3000 à 4000 militaires rwandais qui font la guerre. C'est établi que ce sont les unités rwandaises qui se battent, qui prennent le contrôle de nos territoires, et après la prise de territoire, nous leur donnons une couverture, nous disons, les FARDC ne vont pas vous attaquer pour reconquérir ce territoire-là. En réalité, sur le terrain, que ce soit à Bambo, que ce soit dans tous ces villages de Rutshuru, les M23 n'ont pas d'effectifs. Les Wazalendo, dernièrement, ont pris le contrôle de Bambo. Dernièrement, à Goma, il y a des Wazalendo qui sont partis à Massissi. Ils ont pris environ plus de 150 vaches dans des zones supposées contrôlées par le M23. Le M23 n'existe pas, n'a pas d'effectif. Ce qui fait la force du M23, d'un côté, ce sont les 3 000-4 000 militaires rwandais. De l'autre, c'est le gouvernement qui signe ce cessez-le-feu-là. Et un commandant de FARDC, le gouverneur Peter Chirimwami, en septembre 2023, il a dit ceci, que l'armée, c'est l'instrument du pouvoir politique. En me nommant comme gouverneur militaire du Nord Kivu, je n'ai pas reçu instruction de venir me battre. J'ai reçu instruction de venir faire observer le cessez-le-feu. Si l'M23 va violer le cessez-le-feu, quitte à la communauté internationale de constater. Mais, messieurs, vous exercez le pouvoir pour que des populations soient chassées de leur maison, de leur champ, meurent dans les camps. Aujourd'hui, Kalonji, je ne sais pas si tu as les formations, à Kichanga, trois camions Fuso viennent d'arriver, pleines de populations qui viennent du Rwanda, sous prétexte que l'M23 veut procéder à la réinstallation des réfugiés qui étaient partis du Nord Kivu et qui étaient cantonnés au Rwanda. Pendant que les autochtones sont en train de mourir dans leur camp à Mugunga, autour de Goma, les autochtones sont dans les camps, loin de Kanyabayonga et autres. Maintenant, ce sont des populations rwandaises que l'on veut installer là-bas. Et le gouvernement, à 2000 km, dit, nous signons le cessez-le-feu, quitte à ce que la communauté internationale constate. En réalité, pour
alors,
moi,
vous auriez
c'est une haute trahison.
Vous auriez souhaité que le gouvernement ne puisse pas signer cet accord et que les FARDC puissent combattre le M23 sur le terrain.
Ce qui
que le combat se poursuive.
Les militaires ont démontré que les M23 n'étaient pas invincibles. En septembre 2023, à moins de 12 jours, les militaires FARDC, appuyés par le patriote Wazalendo, ont libéré toutes les agglomérations depuis Kiloliwe, Nturo, Burungu, Kichanga, jusque dans les montagnes de Bouiza, et nos militaires étaient sur le point de descendre à Tongo. Et les populations jubilaient déjà, espérant que Rutshuru allait être libéré. Mais ce qui est paradoxal aussi, À cette période, lorsque les FARDC ont progressé, il n'y a pas eu une réunion recommandant cesser le feu pour interdire au Rwanda M23 de réattaquer les FARDC. L'armée rwandaise s'est redéployée, on a réattaqué Kichanga, on a repris jusqu'à Kiloliwe, jusqu'autour de Sake. La personne n'a réclamé qu'il y aurait un cessez-le-feu à respecter. Par contre, chaque fois après une conquête de nos entités par l'armée rwandaise, c'est là que le cessez-le-feu est signé et notre gouvernement se sent lié par des accords. Pour moi, conformément à l'article 165 de la Constitution, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Cet article nous dit qu'il est possible que le président de la République ou le premier ministre se rendent complices d'un acte de cession d'une partie du territoire national et que cet acte-là s'appelle haute trahison. C'est l'article 165 de la Constitution.
Merci Jean-Baptiste Romindo Kasekwa. Gloire Obinja qui nous suit sur la page Facebook de Radio Okapi. Le Rwanda a signé le cessez-le-feu pour prouver à l'opinion internationale de sa bonne foi et qu'il n'a rien à voir dans les conflits dans l'Est de la RDC. Par contre, les M23 violent le cessez-le-feu pour dédouaner le Rwanda et faire croire qu'ils n'agissent pas derrière le Rwanda. Tout ça pour dire que cet accord, que ce soit pour le Rwanda ou le M23, c'est de la poudre aux yeux. On est forcé, Matumba, vous êtes analyste en charge des grands lacs internationaux, Crisis Group. Votre analyse par rapport à cette situation?
Merci beaucoup, Kelly. Je vais essayer d'analyser et d'abord d'analyser le compte rendu parce que nous parlons de la violation du cessez-le-feu. Donc, je vais commencer par le compte rendu de ce document qui a été signé le 30 juillet 2024 et qui instaure ce cessez-le-feu. Et ce qu'on peut constater d'abord, parce que là, les éléments du langage sont importants. D'abord, ce communiqué ou compte rendu appuie son argumentaire sur les processus de Luanda et de Nairobi et affirme que la seule solution durable à cette crise du M23, bon, pas du M23, à cette crise de l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, c'est une solution négociée de paix et de sécurité. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je propose qu'on voit ce qui est écrit. C'est important. Par la suite, mon ami l'honorable Kasekwa vient de relever ce timing parce que vous vous rendrez compte que les parties au conflit ne sont nullement nommées, désignées dans ce compte rendu. On ne parle pas de parties au conflit. On ne les désigne pas. Mais par contre, l'unique parti qui est nommément cité, ce sont les FDLR. Et avec un chronogramme précis qui part de la réunion ministérielle du 21 mars, où la République démocratique du Congo s'est engagée formellement à produire un plan de neutralisation des FDLR. Maintenant, dans ce document, dans ce texte du cessez-le-feu, nous apprenons, Kasekwa l'a dit, mais je le répète, que le 26 avril de cette année, la partie congolaise a soumis à la facilitation angolaise ce plan de neutralisation. Ensuite, on apprend que le 6 mai, la partie rwandaise a soumis son analyse et ses observations de ce plan congolais de neutralisation des FDLR. Donc, on ne peut pas continuer à dire que les FDLR, c'est une fiction, alors que tous ces documents parlent des FDLR comme une entité à neutraliser. Et c'est Sinon, vous parcourez le document, nulle part il n'est fait mention du M23. Mais c'est terrible. De la même manière, ce document dit que c'est après l'opérationnalisation du plan de neutralisation des FDLR qu'on passerait à l'élaboration d'un plan de désengagement des forces. Point. Quelles forces? Quelles sont les forces qui seront désengagées? Alors, à force d'être muet sur ces entités, évidemment, ça donne des brèches à tout le monde. D'une part, le Rwanda, à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères, a recadré lui-même le communiqué en disant « Nous ne sommes pas partis au conflit, eh bien, nous adhérons seulement au principe d'un cessez-le-feu. » Mais ce n'est pas nous qui devons mettre en œuvre le cessez-le-feu. Et, de son côté, le M23, AFC, RDF, si nous voulons, par son communiqué du 1er août, réagit de façon presque naturelle, je dirais, en disant « Nous ne sommes pas partis à ce communiqué parce que vous ne nous avez pas vus à Luanda. » En un mot, ça ne nous engage pas. D'ailleurs, nous avons toujours respecté le cessez-le-feu. Et donc, nous sommes en face d'un cessez-le-feu qui, visiblement, n'engage personne et surtout n'intéresse personne. Donc, parce que quel intérêt le M23 a-t-il à respecter un cessez-le-feu alors qu'il est sur une dynamique de victoire, d'une part, et que d'autre part, l'un de mes co-débatteurs l'a dit, il y a cette pression judiciaire, notamment ces propositions de condamnation à mort, mais aussi les sanctions internationales, contre leur leadership. Quelle est la carte qui leur reste à jouer? Mais c'est la carte militaire, c'est là qu'ils sont les plus forts, et donc ils vont continuer à appuyer là-dessus. Et là, je vais peut-être terminer en disant, mais comme c'est sur la ligne de l'honorable Kasekwa, en fait, quel est l'intérêt que la partie congolaise a à signer un cessez-le-feu en position de faiblesse, comme ça, après avoir perdu autant d'entités? Donc, moi, je parle d'abord de la première trêve, que je vais appeler la trêve américaine, qui s'est terminée il y a un jour, donc avec la chute de Kanyabayonga le lendemain, eh bien, l'on apprend qu'il y a une trêve humanitaire. Bon, ok. Et maintenant, cette trêve humanitaire qui a été prolongée et qui a fait un mois, mais en étant régulièrement violée, bien sûr, bon, eh bien, elle est suivie par ce cessez-le-feu qui, lui, est illimité dans le temps. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que la partie congolaise pense vouloir inverser la tendance militaire sur le terrain. Donc là, ça fait que je puisse comprendre un certain énervement, surtout dans le chef de Kasekwa. Bon, alors
donc, il ne faudrait même pas espérer ou penser à une désescalade des tensions dans la région. Cet accord ne va pas résoudre le problème. Déjà qu'il est, non, qu'il est violé.
Non, un accord, Kelly, n'a jamais résolu un problème. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'accords, et je serais même assez cynique en disant que un accord de cessez-le-feu préliminaire, parce que maintenant nous sommes en face d'un cessez-le-feu préliminaire à d'éventuelles négociations. C'est pour créer des conditions humanitaires acceptables, mais évidemment, personne n'est dupe. C'est pour conduire à d'éventuelles solutions politiques. Alors, dans le cadre de figure de ce cessez-le-feu préliminaire, il est tout à fait normal que les partis violent ce genre de cessez-le-feu. Question de faire monter les enchères. Donc il ne faut pas juger je dirais, la maturité de ce cessez-le-feu à partir de 2 jours de violation, mais je pense que on doit prendre son mal en patience et ne pas croire que la signature d'un accord, surtout avec toutes les faiblesses que je viens de relever, que cet accord-là pourrait contenir la solution à la problématique de Grand Lac. Mais je voulais quand même aussi dire que les prochains pas se trouvent aussi dans ces communiqués-là, que pendant ce mois d'août, il y aura une autre réunion ministérielle et qui va évaluer ce qui a été décidé pendant ce qui a été fait pendant cette période entre le 4 août et le moment de cette réunion-là pour voir les prochains pas. Donc on ne peut pas désespérer, mais c'est trop tôt, n'est-ce pas, pour croire que ça sera la solution magique.
Merci à l'espoir. On va ouvrir notre standard pour reprendre ces quelques auditeurs ou ces auditeurs qui appellent pour donner leur point de vue, direction Kisangani dans la province de la Tchopo pour écouter cet auditeur.
Héritier Wamenga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Tous les mécanismes mis en place pour restaurer la paix à l'est de la RDC n'ont jamais résolu le vrai problème de ces conflits. Il est donc conseillé à ce stade de favoriser et de promouvoir la diplomatie pacifique avec toutes les parties impliquées afin d'épargner la population civile. Aussi, accepter de négocier avec le Rwanda témoigne en suffisance que nous sommes agressés par ce dernier. Il fallait alors privilégier dans ce contexte le moyen de régulation juridictionnelle de conflits au niveau international contre l'agresseur afin de cerner ses motivations. Cependant, il se peut que le gouvernement doit impérativement chercher à négocier d'une manière indirecte, plutôt directe, avec le dirigeant rebelle pour une solution intermédiaire au lieu de chercher le bouc émissaire. Dans ce contexte où l'armée régulière ne parvient plus à contrôler la situation sur terrain, la moindre des choses serait de chercher la paix à n'importe quel prix. Au lieu de s'enorgueillir, accepter de parler avec Nanga et consorts serait une voie envisageable pour sortir du siècle vicié.
Jean-Michel Kalongi, négocier avec le M23.
Je pense que négocier avec le M23 serait la pire des erreurs. Parce que aujourd'hui nous sommes dans 30 années de guerre et aujourd'hui toute personne pense que en prenant les armes j'arriverai au pouvoir. Nous avons eu le 1+4 parce que ce sont des personnes qui se sont comportées comme des hors la loi. Mais pour trouver la paix, le président Joseph Kabila en son temps a accepté cet accord et nous sommes arrivés au 1+4. Donc tous les autres chefs rebelles sont devenus ministres, Moussa Nyamwisi est devenu ministre, Roger Lumbala est devenu ministre, et tous ces généraux qui n'avaient aucune formation militaire, qui civils, s'étaient autoproclamés général, se sont retrouvés dans l'armée congolaise générale. Et c'est comme ça que le jour où ils ne se sentent pas être mieux traités, il se réveille un matin, rentre en brousse avec son commandement et nous revenons dans la même situation. Aujourd'hui, négocier avec le M23, c'est prendre des rebelles, des hors-la-loi, intégrés dans une armée. Si aujourd'hui nous ne savons pas faire la guerre convenablement, c'est parce que nous avons des militaires qui sont rebelles, qui considèrent que le rebelle en face est un frère, qui ne savent pas le respect du drapeau. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il faudrait reconstruire l'armée, renouveler nos éléments de guerre. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas des munitions, nous n'avons aucune réserve. N'oubliez pas que nous sommes sous embargo. Donc nous sommes déjà autant fragiles à faire.
L'embargo a déjà été levé.
C'est levé entre guillemets, mais nous sommes en guerre, nous devons chaque fois faire une liste, la faire valider, c'est un processus et jamais nous arrivons jusqu'à être livrés. Donc c'est le même problème qu'aujourd'hui, vous allez trouver les présidents, je ne veux pas citer parce qu'il y a eu renversement de pouvoir dans d'autres pays, mais si vous suivez ces présidents, ils vont vous dire que jamais on leur autorise d'acheter des armes, eux qui doivent se défendre contre les rebelles. Nous sommes dans une situation pareille. Aujourd'hui, au même moment que nous devons dépenser des milliards pour financer cette guerre, nous devons aussi avoir des hommes, des mains et des personnes qui doivent servir sous les drapeaux, mais servir loyalement sous les drapeaux. Parce que ce sont des anciens rebelles, ce sont aujourd'hui, c'est des personnes qui sont venues dans l'armée pour
mais
faire de l'argent.
Mais pourquoi vous les gardez dans l'armée si vous savez que ces gens-là sont des rebelles et qui ne travaillent pas pour, pour la patrie? Pourquoi vous les gardez dans l'armée?
Ce sont déjà des personnes dans l'armée. Il faudrait tout un processus parce que les sortir aussi de l'armée, quelle est l'option que vous offrez pour les reconvertir? Parce que ces personnes, demain vous les sortez de l'armée, ils rejoignent les rebelles. Donc il y a tout un mécanisme. Et voilà pourquoi est-ce que il y a quelques semaines, on a suspendu de ses fonctions, limogé le chef du processus de réinsertion et autres.
DDR. Monsieur Bala, l'abbé Bala.
Tout cela, c'est cette situation. Parce que ce processus devait nous permettre de reconvertir ces militaires, de recruter. Mais nous nous retrouvons avec des chiffres. N'oubliez pas que nous nous sommes retrouvés avec une armée sous papier. Nous avons 300 militaires qui sont payés chaque mois, mais sur terrain, nous n'avons pas plus de 100 000. Alors que sur papier, ils sont plus de 300 000, ils sont plus de 400 000. Donc c'est tout ce processus. Il y a eu une mafia, il y a eu une économie de guerre qui s'est instituée autour de cette guerre. N'oubliez pas que la MONUSCO a, de quelques années, cité un général en fonction qu'il vendait les munitions aux rebelles. Donc vous vous imaginez, l'armée, les FARDC, au lieu de combattre les rebelles, vendait ses munitions aux mêmes rebelles qu'ils devaient combattre. Donc ce sont des situations qui sont réelles. Et il faudrait combattre toute cette situation et entre-temps faire la guerre. Nous n'excluons pas que devant tout ce tableau qui fait un chapelet de beaucoup de dysfonctionnements, il faudrait être méthodique à un certain moment. C'est comme ça que nous sommes allés sur les trois planchers, sur le côté diplomatique, nous sommes allés sur le côté judiciaire et nous allons sur la guerre. Et nous voudrions montrer à la communauté internationale que nous avons toujours été accusés de celui qui ne respecte pas les accords, de ceux qui sont toujours en train de trépatouiller. Et maintenant, ça démontre que le Rwanda qui disait ne pas être sur notre territoire accepte qu'ils sont sur les territoires, mais ils se disent ne pas reconnaître le cessez-le-feu. Nous, nous demandons le cessez-le-feu, mais nous demandons surtout qu'il se retire du territoire congolais, que nous restons en face avec Nanga et ses amis. Vous allez
mais
vous rendre compte que Nanga n'a pas de militaires.
Pourquoi ne l'avoir pas dit à Luanda lors de la dernière réunion et coucher ça dans le communiqué? Parce que apparemment, dans ce communiqué, dans cet accord n'impose des obligations qu'à la partie congolaise. Aucune obligation du côté rwandais.
L'obligation du côté rwandais, c'était les cessez-le-feu. Que ce cessez-le-feu puisse être respecté. Le Rwanda utilise toujours le même cahier des charges pour dire qu'il y a des FDLR. Nous avons présenté un mécanisme de désarmement et des engagements de ces FDLR qu'ils n'ont pas accepté.
Ils ont fait des amendements,
ils vont toujours aller de cette façon, mais nous allons aller avec eux jusqu'au bout.
Merci.
Pour dire maintenant quelle est la raison pour laquelle vous êtes au Congo. Mais nous allons résoudre cette guerre et cette guerre va en finir. Il en est de trop que le sang des Congolais puisse continuer à couler.
Merci Jean-Michel Kalonji. Après Kisangani, on va se rendre à Bukavu dans la province du Sud Kivu pour écouter cet autre auditeur.
Steve Baoguere depuis Bukavu, province du Sud Kivu. Dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Quand il s'agit de trouver un compromis, on nous demande de nous asseoir sur une même table avec le régime de Kigali. Mais après, lorsque les rebelles sèment terreur et désolation, on vient de nous raconter qu'ils n'ont pas respecté l'accord de cesser le feu. J'ai toujours dit qu'il ne cesserait de le dire. La paix sera une réalité dans la partie est de notre cher et beau pays, la RDC, lorsque nos dirigeants en feront une priorité.
Jean-Baptiste Mundo, c'est quoi? La guerre sera une réalité dans la partie est de notre pays lorsque nos dirigeants en feront une priorité.
Je suis de son avis. Contrairement à ce que mon co-débatteur Kalonji dit, personnellement, j'admire la bravoure des militaires congolais. Ils l'ont démontré, comme je l'ai dit, lorsque, à moins de 12 jours, ils ont récupéré toutes les agglomérations de Kilolirwe jusqu'à Kichanga. Mais ce que Kalonji ne veut pas dire, c'est que il y a des militaires qui ont été sanctionnés, des commandants qui ont été relevés de manière catastrophique de Kichanga pour avoir battu l'armée rwandaise. Et comment vous voulez que nos militaires se comportent? Relevés à catastrophe sur des menaces venues de Kinshasa. Et nous avons vu, Kalonji, peut-être que tu es de bonne foi. Est-ce que tu peux enquêter, parce que tu es de l'Union sacrée, pourquoi, par exemple, les gouverneurs militaires, depuis juillet 2022, s'occupent simplement de l'administration et du développement, dit-il, et n'a plus la compétence de la conduite des opérations? Non seulement en juillet 2022, vous avez vu le télégramme, mais également cela a été répété en octobre 2023, comme si l'on sanctionnait les gouverneurs militaires qui se seraient donné l'audace, n'est-ce pas, d'encourager les Wazalendo, les militaires à libérer Kichanga, et du coup, on lui retire les commandements de la conduite des opérations. La population a donné des alertes via la société civile pour décrier les comportements de beaucoup de responsables de la chaîne de commandement. Mais jusqu'à ce jour, je ne suis pas au courant des sanctions qui auraient été infligées à tel commandant qui aurait facilité, qui aurait ordonné les replis stratégiques de Nyanzale, Kibiri, Zirwindi. Pas de sanctions. Repli stratégique de Miriki, Kanyabayonga, Kirumba. Et des enquêtes vous disent que ces militaires rwandais qui auraient pris le contrôle de ces zones-là.
Il y a eu un procès et des colonels ont été condamnés. Vous avez suivi ça à Goma. Cher, s'il vous plaît, soyez honnête. Je respecte votre technicité et je respecte votre documentation et soyez honnête dans votre discussion.
Kalonji, s'il vous plaît, celui qui a la parole, allez-y rapidement, hein, parce qu'on doit donner aussi la parole à UNESCO.
Rwindi Kibirizi est tombé au mois de mars. Kalonji, depuis le mois de mars, avez-vous été au courant des commandants qui ont été mis devant la barre pour en répondre? Kanyabayonga, Miriki, Kirumba sont tombés fin mai, début juin. Ils ont été rappelés ici à Kinshasa, quelques temps après, ils ont été rétablis. Et la population s'est dit, mais de qui se moque-t-on? Donc, en réalité, la responsabilité incombe au gouvernement. On dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et les mauvais chefs, c'est jusque au sommet de la chaîne des commandements. Vous avez toujours dit qu'il y a un commandant suprême, il doit assumer la responsabilité de la mauvaise conduite de la guerre, de sorte que de Bunagana à Rutshuru, à Rwindi, aujourd'hui Kanyabayonga, tous les lacs sous le contrôle de ces gens-là. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en train d'assister à la perte du contrôle et quelqu'un l'a dit ici, est-ce que l'M23 a intérêt à négocier ou le Rwanda aujourd'hui a intérêt à négocier? Le Rwanda a toujours eu un plan de créer ce qu'ils appellent un État fédéral autonome. Et aujourd'hui, par les contrôles de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero Sud, ils contrôlent un territoire de loin plus vaste que le Rwanda, de loin plus riche. Ils ont les mines de Rubaya, ils ont les mines de Somikivu, ils ont toutes les ressources du parc. Mais pour quel intérêt voudrait-il négocier lorsque nous nous sentons liés par un cessez-le-feu, nous introduisons à nos militaires de ne pas se battre, et que si eux violent le cessez-le-feu, la communauté internationale va sanctionner. Dans l'entretemps, la communauté internationale ne se donne la peine de sanctionner le moindre possible. Et il n'y a nulle part où le Rwanda a été sanctionné, merci, nulle part où l'Ouganda a été sanctionné.
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Beni au Nord Kivu.
C'est Stoïc Ngurumbura depuis la ville de Beni dans la province du Nord Kivu. C'est vrai que l'AFCED n'a pas été conviée directement, mais elle l'a été indirectement à travers son mentor, le Rwanda. Comme le Rwanda a toujours nié son implication dans cette agression, l'avancée de l'AFC est une hypocrisie visant à faire croire que le Rwanda est innocent dans cette affaire. Personnellement, je souhaite que le gouvernement négocie avec l'AFC et son mentor en renforçant l'armée et la diplomatie.
On l'espoir, c'est Matumba. Le dialogue négocié, gouvernement FC, est-ce que ça mettrait fin à cette guerre? C'est aussi ça que le M23 ou la CM23 RDF demande, des négociations directes avec le gouvernement de Kinshasa.
Bon, en principe, ça devra être la solution, mais il ne faut pas dialoguer pour dialoguer. Il y a de préalables. Déjà dans la question de notre ami de Beni, on sent qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs interlocuteurs possibles. Maintenant, il faut que de chaque côté, on identifie les véritables interlocuteurs qui soient capables de traiter de toutes les questions. Et il faut surtout ne pas rester dans la série de dialogues qui conduisent à ce qu'on appelle le power sharing, la répartition des pouvoirs. Sinon, ça ne résoudra jamais rien. Donc, il faut un dialogue avec les vrais interlocuteurs et pour parler de tous les problèmes de fond, parce que il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas que la crise de M23 à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout un chapelet de crises et je pense qu'il est temps, je suis d'accord, qu'on puisse trouver la meilleure façon d'y répondre en impliquant, en embarquant les personnes, les entités, les acteurs qui sont réellement les acteurs. Donc il ne faut pas juste voir les garçons qui tiennent l'arme, il ne faut pas juste dire non, il n'y a que le Rwanda, les autres n'existent pas. Non, il faut être assez analytique et dire si on va vers un dialogue, voici la stratégie, voici les acteurs et voici les objectifs qu'on voudrait atteindre. Donc, on a plus besoin de théâtre. Donc, c'est réunir autour d'une table, avoir des perdièmes, signer un communiqué, s'embrasser. Ce n'est pas ça qui va ramener la paix. Allez.
Merci, on espère. Nous sommes à la fin de l'émission. On va considérer cela comme votre conclusion. Très brièvement, en 30 secondes, Jean-Michel Kalongi, votre mot de la fin par rapport à la situation qui se passe dans la partie est de la
RDC. Je voudrais dire que le mécanisme est lancé pour mettre fin à cette guerre. Nous allons aller sur le plan diplomatique, judiciaire, et nous allons faire la guerre. C'est vrai que cette guerre va coûter. C'est le sang de nos concitoyens, de nos frères et sœurs qui coulent tous les jours. Et nous devons rétablir la paix dans l'est du pays. L'est du pays, il y fait beau vivre. Et nous devons relancer l'économie dans l'est. Et pour cela, il faut mettre fin à cette guerre qui a traîné plus de 30 années. Et c'est vrai qu'il y a de ces Congolais qui font de l'argent sous cette guerre, qui bénéficient de cette guerre, mais il faudrait que ça s'arrête. Et cela est notre souhait et le vœu du président Félix-Antoine Tshisekedi de mettre fin à cette guerre, et nous allons y travailler et nous allons toujours soutenir notre gouvernement qui, par le truchement de Madame la Première Ministre, qui revient de la partie Est, qui revient de Kisangani, qui a fait déjà l'Est du pays, Goma, Bukavu, elle est consciente de la situation et je pense que tout est mis en œuvre pour mettre fin à cette guerre.
Jean-Baptiste Mindoka, c'est quoi?
J'appelle la société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu, de Maniema, de l'Ituri, la société civile dans toute sa diversité à Kinshasa, à sortir de son sommeil et à cesser avec un regard complaisant vis-à-vis du pouvoir de M. Félix, parce que les éléments sont réunis pour démontrer que en réalité le Rwanda, les M23 ne sont pas faux. Il y a plutôt des éléments constitutifs d'une infraction de haute trahison, une complicité des cessions d'une partie du territoire national. J'appelle également le député et sénateur du Nord Kivu, si vous continuez à embrasser aveuglément le pouvoir sans lui exiger des comptes par rapport à la conduite de la guerre, vous risquez de vous retrouver député, incapable d'arriver désormais à Masisi, à Rutshuru, de Sabutembo, Salubero. À quoi ça va vous servir si vous ne savez pas aujourd'hui vous lever, nous montrer de la même manière que nous avons été exigeants vis-à-vis de Joseph Kabila? Je pense que le pouvoir de Félix a franchi les limites et nous devons lui demander des comptes, parce que si l'on est rigoureux vis-à-vis du gouvernement, on peut prendre des mesures pour inverser les rapports de force et nous sauver du piège des accords qui vont en réalité consacrer la balkanisation de notre pays.
Merci Jean-Baptiste Mindo. Qu'est-ce quoi, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné dans la présentation et la production de ce magazine. Guimaté était à la réalisation, Billy Betou à la mise en onde. Derrière les caméras, on avait Jonathan Falani, Brian Batoupé, Armas Gonda, Isaac Bati et Jordi Bangala. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.